Je suis heureux d'ouvrir cette troisième édition du colloque Energy for Smart Mobility. J'aurais évidemment préféré m'adresser à vous autrement que par vidéo, mais le contexte sanitaire en a voulu autrement. Nous traversons un moment difficile, je n'ai pas besoin de vous le dire, de vous le redire, vous le voyez bien, vous le vivez au quotidien. Ce qu'on dit peut-être un peu moins, c'est que cette crise est aussi une opportunité assez unique. En fragilisant nos économies, elle nous oblige, cette crise, à reconstruire. La question est comment ? Et pour y répondre, nous avons plusieurs alternatives. La première est de se situer dans une forme de déni, une posture qui consiste à dire que la période actuelle n'a rien d'exceptionnel, que la transition écologique n'est pas si indispensable et qu'il faut tout reconstruire comme avant. Ce n'est évidemment pas une option. La deuxième attitude possible, c'est de faire la politique des petits pas, celle qui fait dire à certains que notre modèle est encore rentable et qu'il faut donc reconstruire en faisant le moins possible. Ceci n'est pas une action responsable. La troisième attitude qu'on pourrait adopter, c'est celle de la décroissance, celle qui consiste à interpréter l'impératif de moins d'émissions par moins de déplacements, moins de liberté, moins de progrès, moins d'ouverture sur le monde. Ceci n'est pas la société que nous voulons. Enfin, il y a une quatrième voie, une voie un peu différente, une voie plus radicale aussi, celle de la transformation. C'est celle de se dire que cette crise, c'est le moment ou jamais de nous réinventer, de construire par exemple une vraie souveraineté à l'échelle de l'Union européenne, d'accélérer pour de bon et de façon radicale la transition écologique. C'est ambitieux, c'est audacieux, et je crois que nous partageons cette ambition collective. Notre défi, ce n'est pas seulement de sauver notre économie, c'est de préparer l'avenir de l'Europe. Cet avenir exige la décarbonation de l'ensemble de nos pays. J'ai la conviction que ce n'est pas une contrainte, mais qu'on peut en faire une chance pour créer de nouveaux emplois, pour acquérir de nouveaux avantages compétitifs, décisifs pour l'avenir, pour faire de l'Europe une grande puissance écologique et économique. Décarboner, c'est inventer de nouvelles sources d'énergie, c'est notamment l'hydrogène, et nous avons annoncé 7 milliards d'euros pour accélérer le développement et la structuration de ces filières de production et d'usage. C'est un moyen de reconquérir notre souveraineté énergétique, et à horizon 2030, cela pourrait représenter 6,5 gigawatts de puissance installée, et cela pourrait nous éviter 6 millions de tonnes de CO2 par an en moyenne. Une telle puissance, il faut en trouver les usages, et nous n'en manquons pas dans les mobilités lourdes et longues distances, car l'hydrogène, c'est une chance pour le ferroviaire, pour nos poids lourds, pour nos ports, c'est une chance aussi pour nos avions. En la matière, la France a un rôle particulier à jouer. Airbus et Safran sont de grands champions industriels, mais ce sont aussi de grands champions des émissions. Et ce que nous voulons, c'est ensemble construire l'avion et l'aviation de demain. Un avion vert, zéro émission, que nous envisageons de faire voler dès 2035. Et pour cela, nous nous en donnons les moyens. C'est 1,5 milliard d'euros qui seront investis en R&D rien que dans les trois prochaines années. Autre énergie d'avenir, les biocarburants. Notre objectif à court terme, en incorporer le plus possible, et c'est 2% dans l'aérien à horizon 2025, 5% en 2030, 50% en 2050. Parce que cette transformation doit être totale, mais elle ne doit pas être brutale. On ne va pas demander aux industries de changer du jour au lendemain, on va prendre les décisions, les accompagner, le faire progressivement, et avec elles, avec beaucoup d'ambition, vers un avenir et un horizon décarboné. Décarboner, c'est aussi renforcer l'électrique, en électrifiant les quais de nos ports, comme nous le faisons à Marseille par exemple, en développant des poids lourds électriques, en accélérant la conversion du parc automobile. Cela passe par des mesures de soutien à l'achat de véhicules, bien sûr, mais ça passe aussi et surtout par le déploiement des bornes de recharge. On ne peut pas exiger des Européens de passer massivement à l'électrique sans leur offrir la possibilité de l'itinérance. Alors des bornes, on doit en déployer plus, on doit aussi en déployer mieux, et je viens de présenter des mesures pour atteindre les 100 000 bornes en France d'ici fin 2021, sur les routes, sur les autoroutes, sur les parkings des grandes surfaces. Rien ne sera oublié. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement une question de quantité, mais aussi de qualité. Nous allons donc équiper nos routes de bornes de recharge ultra rapides pour permettre de rouler sur des longues distances. Nous y mettons les moyens, 100 millions d'euros, ce qui est important mais nécessaire, et ce qui ne sera certainement pas suffisant, car la question des bornes de recharge, nous devons la penser plus largement. Nous devons la penser au niveau européen, parce que la longue distance, c'est aussi le transfrontalier, et c'est ce que je défends auprès de mes homologues européens. On est parlé assez longuement avec mon homologue néerlandaise Cora en juillet. Et la France défend, dans le cadre de la stratégie de la Commission européenne, afin de répondre à l'objectif d'atteindre le 1 000 000 de points de recharge d'ici à 2025, la construction de corridors européens. Parce que l'heure n'est plus aux atermoiements, l'heure est à la transformation et à son accélération. La France répondra présente et l'Europe aussi doit prendre pleinement sa part. À très bientôt.